Lovecraft, c'est bon, ça paraît surprenant de l'extérieur, mais en fait, pour quelqu'un qui a lu beaucoup de ce genre de choses, c'est fondamental, quoi, Lovecraft. Il y a vraiment un avant et un après Lovecraft. Ce qu'il a vraiment apporté de plus nouveau, c'est l'utilisation de matériaux multiples. Des faux articles de journaux, enfin, il écrit des articles de journaux, des comptes rendus scientifiques, tout ce genre de choses, ce qui ne se faisait pas du tout avant dans la littérature fantastique. Et ce qui ne s'est pas tellement fait après non plus, d'ailleurs.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Quelle voix reconnaissable, Michel Houellebecq, bien sûr. À propos de H.P. Lovecraft, c'était en 1991 quand le futur grand romancier français sortait un essai sur son auteur américain de prédilection. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous êtes reposés, apaisés, voire en forme en cette nouvelle année 2021. Je ne sais pas quelles sont les lectures qui vous ont accompagné durant ces drôles de vacances d'hiver, mais en ce qui me concerne, de Noël à Nouvel An, j'étais avec les nouvelles de Lovecraft. Les meilleures nouvelles de H.P. Lovecraft, des nouvelles traductions et un inédit, ça vient de sortir aux éditions rue Saint-Ambroise. Lovecraft ne nous lâche plus en fait, lui qui n'a pas connu de succès de son vivant, n'a pas raté le rendez-vous avec la postérité, c'est le moins que l'on puisse dire. Depuis quelques 3 décennies, Lovecraft ne cesse d'être une des plus grandes sources d'inspiration pour les artistes, pour la culture pop en général. Cinéma, séries télé, musique, littérature, jeux vidéo et même bande dessinée. D'ailleurs, quand le mois dernier, on apprenait la mort du grand dessinateur américain Richard Corben, maître de l'illustration fantastique, mon premier geste, en guise d'hommage, était de replonger dans ses adaptations des nouvelles de Lovecraft dans Haunt of Horror. C'est une pure merveille que je vous recommande vivement. Toujours en BD, d'un autre univers et d'une autre génération, Riyad Sattouf a rendu hommage à H.P. Lovecraft à sa manière dans le dernier tome de l'Arabe du Futur, paru il y a 2 mois. Et puis enfin, je voudrais vous signaler que Gallimard vient de sortir en audiolivre cette fois-ci, l'essai que Michel Houellebecq avait consacré à Lovecraft, Howard Philip Lovecraft, contre le monde, contre la vie. Et puis bien sûr, il y a ces meilleures nouvelles de H.P. Lovecraft récemment parues. J'en parlerai avec Bernardo Toro, l'éditeur de la rue Saint-Ambroise, qui est mon invité ce matin. Et on retrouvera aussi Riyad Sattouf, qui nous racontera, comme dans sa BD, à quel point la découverte de Lovecraft fut importante pour l'adolescent qu'il était au début des années 90.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Howard Philip Lovecraft, donc le plus grand et le plus énigmatique écrivain de la littérature fantastique du XXe siècle, est mort en 1937 dans l'anonymat le plus absolu. De son vivant, ses nouvelles publiées dans des pulp magazines lui ont valu peut-être un certain succès critique auprès des éditeurs de ses journaux, mais sans jamais lui ouvrir les portes des grandes maisons d'édition. La reconnaissance de Lovecraft viendra des années après sa mort, et d'abord en France. Et ces dernières années, on l'a dit, Lovecraft est plus que jamais présent et cité. L'œuvre du créateur du mythe de Cthulhu et des grands anciens imprègne la culture pop d'aujourd'hui. Alors, en préambule, j'ai envie de vous faire écouter ce qu'écrivait Michel Houellebecq en 1991, puisque Gallimard a décidé de sortir l'essai de Michel Houellebecq en audio-livre, comme on dit. Voici donc quelques extraits lus par Franck Desmet.
Howard Phillips Lovecraft constitue un exemple pour tous ceux qui souhaitent apprendre à rater leur vie et éventuellement à réussir leur œuvre. Encore que, sur ce dernier point, le résultat ne soit pas garanti. À force de pratiquer une politique de total non-engagement vis-à-vis des réalités vitales, on risque de sombrer dans une apathie complète et de ne même plus écrire. Et c'est bien ce qui a manqué de lui arriver à plusieurs reprises. Un autre danger est le suicide, avec lequel il faudra apprendre à négocier. Ainsi, Lovecraft a toujours gardé à portée de la main, pendant plusieurs années, une petite bouteille de cyanure. Cela peut s'avérer extrêmement utile à condition de tenir le coup. Il a tenu le coup, non sans difficulté. Les héros de Lovecraft se dépouillent de toute vie, renoncent à toute joie humaine. deviennent purs intellects, purs esprits tendus vers un seul but, la recherche de la connaissance. Au bout de leur quête, une effroyable révélation les attend. Des marécages de la Louisiane au plateau gelé du désert antarctique, en plein cœur de New York, comme dans les sombres vallées campagnardes du Vermont, tout proclame la présence universelle du mal.
Un extrait donc de l'essai publié en 91. Il s'était mis à cet essai Michel Houellebecq en 1988. Ça lui a pris 3 ans. Premier livre paru avant même ses romans H.P. Lovecraft, Contre le monde, contre la vie, que Gallimard a décidé de ressortir en audiobook avec la voix de Franck Desmet pour lire le texte de Michel Houellebecq. Bernard Dottoro, vous êtes avec nous, donc vous avez entendu un peu ce que pensait Michel Houellebecq. Si ça se trouve, vous avez lu l'essai consacré à Lovecraft de Michel Houellebecq. Vous qui êtes donc l'éditeur de ces meilleures nouvelles de H.P. Lovecraft qui sortent avec des nouvelles traductions d'Isabelle Barra et une nouvelle inédite. Pour vous, il représente l'auteur maudit Lovecraft. Quelle définition donneriez-vous de cet auteur ?
J'aimerais dire que c'est avant tout un écrivain et je pense qu'on a beaucoup insisté, Houellebecq le premier, sur la dimension imaginaire chez Lovecraft, en ce sens qu'il serait découvreur, l'inventeur, le créateur d'un monde, d'une cosmogonie. Et cela est sans doute vrai et important, mais au détriment de l'écrivain et de sa dimension littéraire dont Houellebecq parle peu, dont on a assez peu parlé. La France a joué un grand rôle dans la reconnaissance de Lovecraft. Mais il est resté en France un écrivain et de littérature de genre, un écrivain de science-fiction, un écrivain d'horreur. Et il ne s'est pas passé ce qui s'est passé avec Edgar Poe. La traduction de Charles Baudelaire a beaucoup joué pour que d'emblée Edgar Poe soit considéré comme un écrivain à part entière et non pas simplement comme un écrivain de genre. Et je dirais que la tentative que nous avons faite avec ce livre, c'est justement de restituer la dimension proprement littéraire de l'œuvre Lovecraft et de le considérer d'emblée comme un écrivain, et non pas simplement comme le créateur d'un monde.
Un écrivain, parce que dans le texte, dans la traduction d'Isabelle Barra, la traductrice de ces nouvelles que vous publiez aux éditions Saint-Ambroise, elle dit que la chose la plus horrifique, c'est plutôt son écriture.
Exactement. Le monstre chez Lovecraft, c'est l'écriture. Et
des nouvelles traductions, pourquoi des nouvelles traductions de Lovecraft en reprenant les meilleures nouvelles pour aujourd'hui?
Parce que Lovecraft avait été relativement mal traduit. Il était considéré comme un écrivain mineur, c'est-à-dire un styliste assez brut. Du coup, les traducteurs ont eu souvent tendance à corriger un peu les impuretés de la prose de Lovecraft, à la rendre plus efficace, en éliminant énormément des choses qui leur semblaient être en trop, et obscurcir un peu l'efficacité du texte. Donc nous avons essayé de restituer, en fait Isabelle Barra a essayé de restituer le vrai Lovecraft, est extrêmement surchargé, baroque, avec des épithètes, des points-virgules, qui ne laissent pas respirer le texte. Un Lovecraft, c'est une prose qui est assez mal connue en France, parce qu'il y a tout ce travail de lissage, de nettoyage de la prose qui a été fait.
c'est vrai, si Lovecraft, pour nous, les lecteurs, c'est d'abord un univers cauchemardesque entre fantastique et science-fiction, entre occultisme et mythes anciens, entre planètes lointaines et fonds marins, et dans un monde plutôt peuplé de personnages névrosés, d'entités extraterrestres au pouvoir immense, comme le gigantesque Cthulhu, tapis au fond de l'océan Pacifique. Lovecraft, dites-vous, ou plus exactement, dit Isabelle Barra en introduction de ce recueil de nouvelles que vous publiez aux éditions Rue Saint-Ambroise, Lovecraft, c'est aussi un style, le monstre véritable chez Lovecraft, c'est l'écriture.
Tout à fait, tout à fait. Les arts visuels, le cinéma, la bande dessinée, les jeux vidéo sont beaucoup intéressés à l'œuvre de Lovecraft, si bien que quand on pense à lui aujourd'hui, on voit des pieuvres géantes, des tentacules verdâtres.
C'est-à-dire que son univers a pris le dessus sur son écriture.
Voilà, tout cet imaginaire-là prend un peu la place de l'écriture. Et du coup, c'est un contresens. C'est un contresens. Si l'on prend par exemple une nouvelle comme l'appel de Cthulhu, on s'aperçoit que le monstre le voit quasiment pas. Il y a très peu de descriptions qui soient faites de lui. Ce qu'on nous dit au contraire, c'est qu'il est irréprésentable et qu'il est même inconcevable. C'est-à-dire que non seulement il choque les sens et la vue, mais la pensée elle-même. On n'arrive pas, même pas à imaginer sa puissance. Du coup, ça met en échec le langage lui-même. Et donc le langage, le style de Lovecraft n'est pas là pour montrer le monstre, pour essayer de nous le décrire, mais plutôt c'est un peu comme un système immunitaire qui, face à cette frayeur et face à cet irreprésentable-là, sécrète des anticorps qui sont les phrases, et pour essayer de conjurer en fait l'horreur par le style, par la joue et la superposition d'adjectifs, par le point-virgule, par toutes ces descriptions qui n'en finissent plus, qui finissent à force de s'accumuler par obscurcir le texte alors qu'ils sont censés apporter une forme de clarté. Et c'est cette dimension de l'écriture qui a été un peu gommée. Et c'est cette dimension qui est proprement monstrueuse.
Et que vous restituez donc avec ces nouvelles traductions signées Isabelle Barra, entre autres, dans ce recueil, donc les meilleures nouvelles de H.P. Lovecraft. Je voulais vous poser une question qu'on pose généralement à des lecteurs, beaucoup plus qu'à des spécialistes ou à des éditeurs, c'est-à-dire quelle est la nouvelle de Lovecraft qui vous a le plus marqué ou qui vous a donné envie d'aller encore plus profondément dans l'œuvre de cet auteur. Mais avant de vous donner la parole à vous, Bernardo Toro, j'aimerais que vous écoutiez un peu le Riyad Satouf, qui lui-même est un fan absolu de Lovecraft. Il en parlait justement dans le Réveil culturel à l'occasion de la sortie du 5e tome de l'Arabe du futur il y a 2 mois.
C'est le moment où j'ai découvert aussi Howard Philip Lovecraft, dont je parle dans ce livre, et qui a été très important, parce que en tant que figure d'écrivain, moi ce qui m'intéressait aussi, c'était les personnalités des écrivains, les personnalités des créateurs. Et alors Lovecraft, il est absolument génial, parce que c'est un homme qui a fait une œuvre qui a influencé toute la culture populaire moderne, et qui n'a jamais connu le début d'un succès. C'est-à-dire il est mort dans la misère, seul, sans avoir jamais eu quasiment de rapport social. Il avait un physique assez particulier qui était un petit peu effrayant. Et je me sentais très proche de ce personnage, de cet homme, qui avait quelque chose de rassurant, parce qu'on se disait on ne peut difficilement plus rater sa vie que lui. C'est-à-dire responsable d'une œuvre, mais de ne jamais voir qu'elle touche quiconque, c'est quelque chose d'affreux. Enfin, comme dirait Lovecraft lui-même, il y a quelque chose d'innommable là-dedans. Et voilà, tout cet univers d'horreur, de surnaturel, de paranormal, c'est quelque chose que j'aborde dans ce livre. Alors, un détail très très simple, c'est que lorsque je disais aux gens, alors là, souvent, bon, les personnes qui pouvaient s'intéresser un petit peu à moi ou mon histoire, la première chose qu'ils me demandaient, c'est quoi ce prénom Riyad et Satouf, qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à l'époque, donc, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Twitter, etc. On ne savait pas tout de suite que Riyad Satouf, c'était un nom arabe. Donc, un jour, j'ai des copains un petit peu plus intello et cultivés que les autres qui m'ont posé cette question. Je leur ai dit que j'étais syrien. Et là, tout de suite, ils ont fait référence à un personnage inventé par Howard Philip Lovecraft qui s'appelle Abdul Al-Hazad, qui est un écrivain mythique inventé par Lovecraft qui aurait écrit le Necronomicon, qui est un livre maudit. Et c'était un arabe dément qui a écrit le Necronomicon, donc à Damas. Et donc je suis entré comme ça dans le monde des livres de grands à travers cette porte, la porte d'Abdul Al-Azred.
Voilà, c'était bien sûr Riyad Satouf parlant de Lovecraft dans le Réveil culturel à l'occasion de la sortie de l'Arabe du futur, le dernier tome, sorti en novembre. Bernard Dottoro, on a l'impression que le personnage le plus énigmatique dans l'œuvre de Lovecraft, c'est Lovecraft lui-même. Isabelle Barra disait que le monstre dans l'œuvre de Lovecraft, c'est son écriture. Et là, on se rend compte aussi bien chez Michel Houellebecq que chez Riyad Satouf que lorsqu'on parle de Lovecraft, le personnage, l'écrivain, est tout aussi présent, cité comme les autres protagonistes de son monde mystérieux.
Oui, tout à fait. C'est un personnage un peu énigmatique et un personnage maudit. Mais je crois que il y a une dimension philosophique dans son œuvre et qu'il a perçue très tôt, parce que c'est pas de la philosophie abstraite, mais de la philosophie concrète. Il a commencé par faire des études d'astronomie, il regardait le ciel et il voyait que l'homme dans cet univers extraordinairement vaste était une sorte de poussière totalement insignifiante. Et je crois que toute son œuvre est liée, est un moyen pour pouvoir représenter cette insignifiance de l'homme, ce qui est très troublant dans son œuvre, ce qui fait qu'elle passe aussi assez mal au cinéma, c'est le fait qu'il n'y a pas, absolument pas de combat Lovecraft, et il n'y a pas de chemin narratif au sens où un élément perturbateur génère une opposition entre deux forces. Il n'y a pas d'héros, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils.
Enfin, il y a beaucoup de méchants, si, il y a beaucoup de méchants, il n'y a pas de gentils peut-être.
Mais tout. Mais non, parce que les méchants, si vous voulez, ils n'ont pas la volonté de nuire. Ils provoquent beaucoup de mal. Mais il n'y a aucune volonté de leur part de nuire. Ils provoquent le mal et ils s'en fichent éperdument des créatures qu'ils détruisent, qu'ils anéantissent. C'est pas du tout leur intention.
Je suis entré dans le monde des livres par la porte d'Abdul Hazrad, l'arabe fou de Damas, disait Riyad Satouf. Et vous-même, Bernard Dottoro, par quelle porte êtes-vous entré pour pénétrer l'œuvre, le monde, l'univers de H.P. Lovecraft?
La couleur née de l'espace, qui était la nouvelle que Lovecraft aimait le plus de lui, me paraît aussi aujourd'hui et dès le départ comme la plus aboutie.
La couleur née de l'espace,
Oui, exactement, qui a été auparavant traduite comme la couleur tombée du ciel, qu'Isabelle Barra a traduite comme la couleur née de l'espace. Pourquoi ? Parce que Lovecraft reprochait beaucoup à la science-fiction de son époque, et même à celle d'aujourd'hui, s'il était vivant, qu'il y avait une dimension trop anthropomorphique dans toutes les représentations du monstrueux. Alors que lui, ce qui intéressait, c'est de montrer une étrangeté radicale, une altérité absolue face à l'homme. Et donc, il a cette idée absolument géniale d'imaginer une créature qui n'a pas de forme prédéfinie, qui prend toutes les formes, qui est une couleur, c'est-à-dire quelque chose qui par définition n'a pas de forme propre. Et donc, en faisant ça, il est vraiment aux antipodes de toute vision anthropomorphique du monstre, du monstrueux, du mal. Je pense que malheureusement, il n'a pas pu poursuivre sur cette voie parce que je pense qu'il aurait perdu tous ses lecteurs, mais sa volonté et le sens qu'il donne à sa quête de fantastique aller dans le sens d'un échec, d'un divorce total avec toute vision anthropomorphique du mal.
Alors, les meilleures nouvelles de H.P. Lovecraft sortent donc dans une édition qui est complètement consacrée aux nouvelles publiées par des grands auteurs. D'ailleurs, les éditions russes Saint-Ambroise sont spécialisées dans la nouvelle. Mais il y a peut-être une autre raison qui vous a poussé à vous intéresser à Lovecraft, puisque vous écrivez en postface que Lovecraft, s'il est de plus en plus présent dans notre imaginaire, c'est parce que nous vivons dans le monde de Lovecraft.
Tout à fait. Nous vivons dans le monde de Lovecraft. Et pourquoi nous vivons dans le monde de Lovecraft? C'est parce que, je vous disais, chez Lovecraft, il y a une telle disproportion entre ces créatures venues d'ailleurs et l'homme qu'il n'y a pas de lutte possible. Je pense que nous sommes entrés dans un monde où l'homme a affaire à des systèmes, à des logiques suprapuissantes et contre lesquelles il ne peut pas lutter, contre lequel il ne peut pas s'ébattre. Ces logiques ne veulent pas forcément le mal de l'homme, ne veulent pas nuire à l'homme, et pour elle, l'homme est quantité négligeable. Mmh. Je crois que nous sommes dans un monde effrayant parce qu'on nous le présente souvent sous forme de lutte, comme s'il fallait lutter pour le bien, lutter pour un monde meilleur, lutter pour s'en sortir. Or, le monde dans lequel nous vivons réellement est un monde où nous sommes totalement impuissants face à ces déterminations extérieures qui nous dominent et nous écrasent. Et donc, dans ce monde-là, effectivement, Lovecraft fait figure de précurseur.
Je ne suis pas fou. Je souhaite juste aujourd'hui prévenir le monde des horreurs indicibles qu'une nouvelle expédition dans ce désert blanc pourra libérer. Non, je ne suis pas fou. Je les ai vus, ces entités rampantes, plus anciennes que les hommes, ces immondices cachés dans la cité de pierre noire.
Merci Bernardo Toro. Je rappelle donc les meilleures nouvelles de H.P. Lovecraft avec de nouvelles traductions et une nouvelle inédite. C'est aux éditions Rue Saint-Ambroise et ça vient de sortir. Ça vient de sortir également chez Gallimard, mais en audiobook, l'essai de Michel Houellebecq consacré à Lovecraft. Et vous trouverez quelques liens utiles à la page de l'émission Le Réveil Culturel qui vous guideront jusqu'à la compagnie des œuvres consacrées à Lovecraft. Merci tout le monde.
Le Réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr ou en passant par l'application Radio France.
Bonjour à vous toutes et à vous tous. On se retrouve demain à la même heure dans un instant les premières informations du jour.